vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je vous parlais de Brent Lakatos qui avait terminé 12e et surtout en état d'hypothermie dans un marathon en fauteuil roulant à Tokyo. Ben aujourd'hui, on va parler du gars qui a terminé juste devant lui. On va voir comment c'était froid.
Accès libre avec Luc Fortin.
Salut tout le monde, en compagnie de Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et de Christiane Campagnan qui va venir faire son tour plus tard. Luc Fortin, Accès libre, l'émission qui traite de bonnes et de moins bonnes nouvelles entourant le monde de la limitation fonctionnelle. Aujourd'hui, petit tour en Ontario, là où la grogne s'organise contre le gouvernement de Doug Ford. Des promesses électorales pas tenues par le gouvernement de la coalition Avenir Québec selon le groupe Exequo. Un athlète qui se lance en affaires et pour un à Tokyo. Et j'espère avoir mieux compris les troubles anxieux dans les 12 prochaines minutes. Monsieur de la Liberté, bonjour.
Bonjour, Monsieur Fortin.
Ça va bien?
Ça va très bien, vous?
Yeah, oui, c'est gentil. Vous me dites que Nathalie Parent est en ligne?
Nathalie Parent est en ligne, oui, je l'ai contactée il y a quelques instants.
Bonjour, Nathalie Parent.
Bonjour.
On me dit que vous êtes psychologue, auteur et conférencière.
Oui.
Ben, c'est fameux. D'autant plus que, bon, j'ai vu que vous vous intéressiez à l'anxiété chez les jeunes, entre autres choses. Et j'ai envie de savoir, puisque le temps compte, la différence entre le stress, l'angoisse, l'anxiété.
Oui, en fait, j'aime bien, moi, illustrer la comparaison en prenant l'image d'une abeille. Hein, des abeilles qui nous tournent autour, une abeille, plusieurs abeilles, c'est stressant. Hein? Donc, ça, c'est le stress, c'est des éléments de stress. Et si je suis là en train d'anticiper qu'une abeille va me piquer ou encore je suis en train de me cacher parce que j'ai peur qu'il y ait des abeilles, là, je suis plus dans de l'anxiété.
OK.
Hein, donc, pour traduire concrètement, l'anxiété en tant que telle, ça amène, c'est un sentiment de peur qui nous habite, puis ça amène des comportements de fuite souvent, et ça amène aussi des pensées qui sont pas rationnelles, qui font que les gens vont dire, ben voyons, t'as pas raison d'avoir peur, t'as pas à t'inquiéter, mais non, c'est pas rationnel.
Mais justement, la différence entre ce sentiment-là et lorsque, disons, on peut le diagnostiquer comme étant un trouble.
Oui. En fait, quand on veut poser un diagnostic, il faut que l'anxiété soit là depuis plus de 6 mois, que ça amène vraiment une souffrance qui est grande. Là. On sent l'enfant ou même l'adulte là, qui souffre énormément de ça et que ça l'empêche de faire plein de choses. Ça affecte différentes sphères de sa vie, entre autres le travail ou à l'école pour les enfants, dans les relations amicales. Donc, ça affecte sa vie de façon significative. Là.
Mais Nathalie, est-ce que ça peut être compartimenté ou vraiment si l'enfant a des troubles anxieux, ça devrait être dans plusieurs segments de sa vie?
Ça peut être compartimenté, okay. Hein? Ça peut être aussi dans plusieurs secteurs de sa vie. Ça dépend de la personnalité. Il y a des gens qu'on va dire qui ont comme un fond anxieux, hein? Ces gens-là, on le voit là, depuis qu'ils sont tout petits. Mm-hmm. Et ils sont comme plus dans la peur, dans la crainte. Et puis ça leur amène sont peut-être plus à risque de développer un trouble anxieux, mais c'est pas non plus absolu, là.
Ouais, surtout oui. Que je lisais, et vous me direz si j'ai tort, mais que le diagnostic, ça pouvait se déclarer, disons, autour de l'âge de 8 ans, pas nécessairement avant. C'est parce que je pense à un petit bonhomme, moi, qui, il me semble, depuis le début de sa vie, est très mal à l'aise avec les gens, avec le bruit, et ce qui pourrait ressembler à une caractéristique de TSA ne l'est pas. Je pense vraiment que c'est plutôt l'anxiété, mm-hmm. C'est juste pas quoi faire avec les gens qui lui parlent ou...
Bien, effectivement, hein, l'anxiété, ça fait partie du développement normal de l'enfant. Il y a des périodes de vie, des moments, oui, dans la vie où on vit des peurs, entre autres, bien, de l'anxiété, là. Entre autres, quand on est bébé, là, vers l'âge de 8 mois, c'est toute l'anxiété de séparation qui s'installe. Bon, à d'autres moments, là, entre autres, à 8 ans, c'est aussi une période stratégique où il y a beaucoup les peurs, une conscience aussi face à la mort, donc peur d'être malade, peur de perdre ses parents, peur des voleurs, peur, hein, il y a comme une conscience sociale qui s'installe, puis il y a une anxiété qui est normale, on le voit là très tôt.
Est-ce qu'il y a des profils pour qui c'est peut-être plus indiqué, exemple, je sais pas moi, un enfant unique qui est en symbiose avec ses parents ou bien un enfant dans une famille très compétitive ou...
C'est vrai que on parle beaucoup d'anxiété de performance, ce qui est pas, ça fait pas partie des critères diagnostiques là dans le manuel des diagnostics, mais on en parle beaucoup. Puis c'est vrai que si on est en présence de parents très performants, très compétitifs, c'est possible que le jeune soit plus à risque de développer un peu d'anxiété face à la performance. Mais on sait aussi que chacun a son histoire, donc chacun va évoluer à sa façon. Puis, quand on voit habituellement un enfant anxieux, il y a très souvent un des deux parents, sinon les deux, qui vivent de l'anxiété.
Nathalie Parent est psychologue, auteure et conférencière. Nathalie, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider?
Bien, je pense que surtout pour les enfants, si on peut soi-même, en tant que parent, travailler sur notre propre anxiété, ça va avoir une influence
C'est vrai qu'on est un modèle.
Majeur. Ouais. Oui, absolument. Puis sinon, on va aller travailler tous les aspects de l'hygiène de vie, là, le sommeil, c'est super important, les écrans, les activités physiques. Il y a des choses concrètes à aller travailler là-dessus et aussi amener le jeune à voir ça comme des défis. Donc, on a tous des défis dans la vie, puis être anxieux, vivre une anxiété face, mettons, à un exposé oral, ben c'est un défi. On va l'amener comme un défi, on va l'aider à développer la confiance en lui, à travailler les habiletés pour entrer en relation avec les autres, par exemple, là, pour ce que vous disiez tantôt. Donc, c'est des défis. On va l'amener sur un défi.
À qui je pense, maman a des troubles anxieux et de lui dire « Essaie d'être plus calme pour ne pas que ça se transporte chez ton fils » va probablement être anxiogène pour elle. Donc, comment trouver une façon que ce soit plus facile pour le parent qui vit même ce type de difficulté-là?
Ben moi j'aime bien le présenter comme étant pas culpabilisant, mais au contraire de dire que on a un certain pouvoir, hein, quand on peut travailler sur nous-mêmes.
Oui. Okay.
Puis que ça influence les enfants, c'est merveilleux. On a un certain contrôle, beaucoup plus que d'avoir un contrôle sur l'enfant en tant que tel. Et c'est vrai que de dire juste calme-toi, ça va aider l'autre, non, c'est plus complexe que ça. C'est vrai qu'il faut essayer de trouver d'autres façons. Bon, entre autres, on sait que la respiration, c'est quelque chose de fondamental qui peut aider à... Donc, une pratique régulière, mettons, d'exercice de détente, de respiration, c'est quelque chose qui peut aider grandement le jeune à se calmer, à calmer ce qu'il y a en dedans.
Et en terminant, si on pense à l'artillerie lourde, bon, respiration pour se calmer, mais je pense à, bon, thérapie, médication, est-ce que c'est indiqué, contre-indiqué?
C'est tout à fait indiqué. C'est sûr que quand on est plus dans le trouble anxieux puis que vraiment ça affecte toute la vie, je pense que la médication peut être importante, mais il faut savoir que la médication ne règle rien. Hein? Alors que si on va en thérapie ou une médication combinée à la thérapie, où est-ce qu'on va aller travailler sur la force intérieure de l'enfant ou de l'adulte, c'est ce qui va aider à avoir confiance dans une prochaine période d'anxiété, par exemple. Ou parfois, on peut aller comprendre, voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est d'autres émotions puis j'ai de la difficulté à gérer toutes ces émotions-là? Est-ce qu'il y a eu un traumatisme à la base? Bon, on va aller travailler sur le traumatisme. Donc, quand on cherche à comprendre ce qui s'est passé ou de quoi ça parle, ben c'est vraiment garant, c'est des graines qu'on sème à long terme, là.
Merci beaucoup. Ça a été éclairant. Et à ceux et celles qui vivent cela, ben lâchez pas. Disons, le livre le plus récent de votre plume?
Oui, c'est « Enfants stressés ». C'est un livre qui se veut un peu en prévention, justement, au développement de troubles anxieux. Donc, on va aller travailler à la base sur le stress, sur les éléments du stress pour mieux prévenir.
Merci beaucoup, Nathalie Parent.
Merci à vous.
Nathalie, qui est psychologue, auteur et conférencière. Samedi, j'écoutais du Morane à la maison. Je suis tombé sur un album en spectacle enregistré à la salle Maisonneuve où elle a... pour plusieurs chansons, décidé d'inviter, bon, entre autres, le prélude de Bach, elle le chante avec Daniel Lavoie. Là, bon, j'avais envie que ça bouge un peu. Toutes les mamans, mais essayez de découvrir avec qui Morane partage la scène. Disons qu'à un moment donné, elle va vous donner un bon cue, là.
Je te sens dans ma peau.
Véronique Dicaire et Morane, bon, on peut dire que les filles ont bien travaillé, mais monsieur ou madame de la baguette, vraiment, il y a un effort qui a été fait. Là, trop souvent, je trouve que les musiciens sont passés sous silence devant le ou la interprète sur scène qui prend l'avant-scène. Alexandre Dupont, bonjour!
Bonjour.
Alexandre, moi, je veux savoir, là, ça fait une couple de semaines qu'on en parle ici, là, la fameuse hypothermie là, à Tokyo. Ouais. Vous, de toute évidence, qui avez terminé un rang devant Brent Lakatos,
ouais.
Il a fait froid pour vous aussi?
Il a fait froid pour tout le monde, oui.
Comment on fait pour courir dans ce temps-là? Comment on fait pour... déjà, il fait bon et c'est difficile de faire un marathon. Quand on n'est pas en état, ça doit être l'enfer.
Oui, c'est une belle façon de le décrire. Oui, c'est l'enfer. C'est sûr qu'au début de la course, ben, on a froid, mais c'est encore... on attend sur sa ligne de départ, si on veut, avec notre coat, puis on a notre manteau, puis ouais. on a froid, mais on est encore en vie, là. Donc, le début de la course, puis là, ben, au début, ben, on veut pas, c'est une course, là. Fait qu'on se réchauffe, on s'active, puis c'est pas si pire. Mais rendu, pour moi, là, ça a été environ alentour du... je dirais 25-35 kilomètres, là, mmh. où est-ce que il n'y avait plus rien à faire, là. Non, c'est un petit peu, on va dire, un peu l'énergie du désespoir, puis on se dit que ça va être plus... c'est vraiment le but, c'est de finir la course pour sortir de ces conditions-là, bien plus que les résultats de la course même, là, rendu à ce point-là, là, j'en pouvais plus, là.
Bon, la question que je me pose et que d'autres se posent probablement, il est où le plaisir là-dedans, là?
Là, je me pose la même question moi aussi, là. je ne sais pas répondre à cette question-là. Là. Normalement, c'est bien le fun. Là. Des fois, tu me disais le dépassement de soi. Mais là, disons qu'il n'y avait plus de plaisir.
Oui, je comprends. On parle de Révolution Sport aujourd'hui. Donc, oui. cette entreprise que vous avez décidé de lancer. Est-ce que, je pense que le frère s'est joint sur le tard?
Oui.
Est-ce que la conjointe est là-dedans aussi?
Oui, c'est, okay.
c'est familial?
Oui, c'est moi et ma femme qu'on a commencé ça dès le début. Puis on a commencé ça dans l'Ouest canadien. Puis quand on a déménagé ici au Québec, là, mon frère s'est joint à nous.
Bon, les deux, vous êtes athlètes. Comment passer de, disons, la dimension athlétique à la dimension d'entrepreneur?
Ça se ressemble un peu dans le sens qu'on part de loin puis on travaille fort puis ça prend bien des années pour réussir à devenir bon, dans le fond. Fait que, puis ça prend bien de la persévérance. Fait qu'un peu dans ce côté-là, ça se ressemble. Mettons, pour matcher les deux dans la vie de tous les jours, là, pour coordonner ça un peu, ben je dis souvent que c'est un petit peu comme un genre de chaos, un genre Écoute, on n'arrête pas, c'est pas compliqué. C'est un horaire un peu de fou. Là, ouais.
Pas beaucoup de temps pour District 31. Là.
Non, pas ben non.
OK. Vous étiez déjà, disons, vos forces là-dedans, qu'est-ce qui vous a donné le goût de vous dire, je comprends qu'il y a peut-être de voir une opportunité en ce sens. Vos équipements, vous les offrez à d'autres athlètes qui ont peut-être de la difficulté à trouver des appareils, que ce soit des rouleaux pour le fauteuil roulant ou d'autres choses. Mais mis à part l'opportunité, je veux dire, il faut avoir des habiletés.
Oui, ben c'est ça. Ben nous autres, mes frères, on a grandi quand on était jeunes, mon père il avait une petite machine shop, un sideline, il travaillait là-dedans. Fait qu'on a un petit peu grandi dans cet univers-là. Puis moi, quand j'ai commencé la course en fauteuil, ben c'est ça, j'ai vu qu'il y avait quand même une assez grosse lacune là, dans ce qui nous était offert. Puis j'ai commencé tout bonnement à fabriquer des produits pour moi-même. Puis là, il y a eu un intérêt de d'autres quand ils ont vu ce que je m'étais fait. Puis ça a comme commencé tranquillement comme ça.
Parce que vos produits, vous les ameniez en compétition ou vous aviez des photos? Ou comment les autres ont vu?
Bien, c'est parce qu'il y a un de mes produits qui est la caisse de transport pour les fauteuils de course. Bien, ça, c'est sûr, okay. C'était justement une caisse que je voyageais avec. Ça fait que ça, c'est bien évidemment, ça s'est fait voir vite. Puis, c'est ça. Puis là, avec mon rouleau, je m'entraînais avec du monde qui venait s'entraîner chez nous. Puis, le mot, c'est comme tranquillement pas vite passé. Là.
Mais ça prend combien de temps fabriquer un produit? Puis, les faites-vous un par un?
Ça dépend. Les caisses de course, oui, c'était un par un. Là, on est en train de changer le design. On s'achète une grosse imprimante 3D puis on va les imprimer. Les rouleaux, on fait ça en batch de entre 6 et 12, mettons, à la fois, dépendant là, des commandes puis tout ça.
Ça prend combien de temps, donc, à sortir un rouleau?
Bien, normalement, une bâche, on va faire ça dans de 2 semaines environ, ah, là, pour une dizaine. Là, ouais.
Vous les sortez une fois la commande reçue ou vous n'avez d'avance?
D'habitude, on a un petit peu d'avance. Fait que, dans le fond, on a 3-4 en commande, on va en faire 7, 8, 10 pour en avoir sa tablette. Puis, tu sais, normalement, dans le temps, ça se vend assez vite quand même. Là, fait que ouais. On fait ça comme ça.
Est-ce qu'il y a des particularités, je veux dire, d'un athlète à l'autre, ou, bon, si vous dites que vous en faites 6 à 10 en même temps, j'imagine, c'est parce que c'est assez standard?
Oui, les rouleaux, c'est très standard. On a quand même des produits qui ne le sont pas. Les caisses de course, c'est un exemple où c'est vraiment fait là, pour le fauteuil de l'athlète. Donc, ça, on ne veut pas en faire d'avance. Mais les rouleaux, là, c'est assez standard.
Le prix, est-ce que c'est beaucoup... On sait que souvent, les choses adaptées sont beaucoup plus chères que ce que monsieur, madame, tout le monde, en général, va se procurer. Est-ce que c'est le cas dans ce cas-ci?
Oui, c'est ouais. le cas aussi. Puis une raison à ça, c'est que justement, on peut pas en faire 100 d'avance, puis des grosses quantités, puis ci, puis ça. Donc, c'est vraiment fait à la main. Il y a beaucoup de temps passé là-dessus. Puis, dans le fond, le prix, c'est vraiment beaucoup de la main-d'œuvre. C'est vraiment ça.
Ceux qui veulent pas nécessairement faire de la course, mais qui veulent peut-être amener leur fauteuil roulant en avion, est-ce que c'est le genre de caisse qui peut leur servir?
Pas ceux-là que je fabrique. Okay. On en fait sur mesure, par contre, pour d'autres utilisateurs. Donc, si jamais c'est déjà arrivé, justement, qu'on en a fait là, pour d'autres équipements sportifs ou pour des fauteuils comme ça, là, ouais. On en fait un peu de toutes les sortes. Mais mon gros vendeur, là, ce qui est sur mon site Internet, là, c'est ça là, pour les fauteuils de course.
Bon, j'imagine que vous allez me dire que c'est différent, mais quand même, le plaisir de l'un par rapport au plaisir de l'autre, c'est-à-dire l'athlète et l'entrepreneur?
Ben ça se complète bien. Moi, il y a beaucoup d'athlètes qui ne sont qu'athlètes. Mm-hmm. Moi, personnellement, j'ai besoin d'un petit peu de plus de stimulation. Pas qu'il n'y en a pas quand t'es d'athlète, mais en dehors des entraînements et des compétitions. Il y a beaucoup de temps mort. Puis là, ben, ça me prenait d'autres choses pour m'occuper l'esprit un peu.
Il y a quand même quelque chose d'intéressant et d'inusité dans l'idée d'offrir à d'autres compétiteurs qui coursent contre nous. Les moyens de vivre une vie plus confortable, plus mieux entraînée. Y a quelque chose d'altruiste, je sais pas. En tout cas, c'est pas habituel.
Non, mais c'est un petit monde, nous autres, hein, notre sport, c'est pas... on est quand même plusieurs athlètes, là, mais c'est un petit monde qu'on se tient pas mal toutes les coudes, puis même ceux qu'on course contre, là, à part qu'il y a toujours des exceptions, mais en général, tout le monde s'entend bien. C'est un petit monde où est-ce qu'on va s'aider entre chaque pays pour se qualifier pour les Jeux, même si on sait que la personne que tu viens d'aider va peut-être te planter au jeu. Mmh. On s'aide d'habitude, on fabrique aussi des gants de course, puis on avait eu un petit rire avec ça il y a pas longtemps, j'étais en compétition aux Émirats arabes, puis j'ai fabriqué une paire de gants pour un gars, puis environ, j'ai donné, puis 10 minutes après, il m'a battu dans la course avec mes gants. Okay. Mais on en a ri, puis écoute, ça fait partie de la game, puis c'est quand même un bon petit monde.
L'inverse serait plus gênant aussi. Si les gants se brisaient durant la course, là, ils pourraient peut-être penser que...
Mais j'ai pas ben peur, mais mes produits sont pas mal tough.
On pense courir combien de temps encore?
C'est certain jusqu'à Tokyo, là, les Jeux de Tokyo 2020. Ça, c'est un certain pour moi et ma femme. Après ça, je pense pas arrêter, mais ça va être on va y aller année par année. Là, on va voir. Ça fait déjà un bon petit bout que je course. Ça va faire rendu à Tokyo, ça va faire 15 ans. Là. Fait que on va voir après ça. Là. Moi, je pense bien continuer. Là. Ma femme peut-être un petit moins sûre, mais ça va y aller vraiment année par année. Là. On va voir.
En tout cas, ce que je remarque là, dans votre palmarès, c'est que vous avez participé à Londres et Rio, que la conjointe, elle, était plutôt Beijing et Rio. Qu'est-ce qui reste à faire pour Tokyo? C'est-à-dire pour être qualifié?
Nous autres, en athlétisme, ça dépend des sports. Il y a des sports qui sont faits bien d'avance, mais en athlétisme, là, c'est décidé là, jusqu'à... L'équipe se décide 3 mois avant les Jeux.
Donc,
on a encore bien des croûtes à manger.
Ouais. Vous faites pas de canne blanche?
Non.
Non, OK. Fait que je devrais pas vous appeler pour commander quoi que ce soit. Alexandre Dupont, merci beaucoup. Bonne chance, bonne continuité. Je trouve ça vraiment intéressant, l'idée de faire ça comme ça, l'unité, et surtout un gars de chez nous, pourquoi pas. Révolution Sport, si vous voulez en savoir davantage, j'imagine c'est révolutionsport.com?
.ca,
puis sport, c'est au singulier.
Au pluriel.
Ah, OK, moi sur ma feuille, c'était marqué au singulier.
OK.
Amusez-vous bien!
Merci.
Madame Campagna, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Je vais bien, et vous?
Ouais, oui. Il dit qu'il y a eu froid.
Ben, j'imagine.
Ouais, ouais. Il dit qu'il n'y avait plus de fun, à un moment donné, là. vous avez lu quoi, vous?
Eh bien, aujourd'hui, quand on fait une recherche Google, est-ce que tu connais les Google Doodle?
Bon,
c'est quelque chose d'assez visuel. C'est une modification temporaire au logo de Google sur la page d'accueil pour la recherche qui sert à célébrer des événements, des fêtes nationales, des anniversaires d'illustres personnages ou des événements comme les Jeux olympiques.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, quand on arrivait sur Google, on avait un petit dessin animé d'une canne où on voyait une canne blanche et des pieds qui avançaient sur une surface podotactile jaune, comme on trouve ici dans le métro.
Ben oui.
Et en regardant bien, on pouvait voir qu'il y avait des points de couleur et que ça formait le mot Google, parce qu'ils mettent toujours quand même leur marque de commerce dedans. Et en cliquant sur l'image, on arrive sur les résultats de recherche pour le nom Seishi Miyake. Mon japonais n'est pas tout à fait au point. Mais c'est l'inventeur de ces surfaces et c'est son anniversaire de naissance aujourd'hui.
Mon Dieu, c'est bien que Google sache ça.
Oui, et moi, je passe rarement par cette page-là parce que j'ai plein de favoris, tout ça. Alors, on dit merci à Claudia Benoît.
Oui, oui.
Qui nous a écrit pour nous le signaler.
Puis à ce monsieur ou ce madame-là.
Oui, absolument.
et à ceux qui prennent le temps, parce que trop souvent, on a l'impression que, en tout cas ici, ça a pris un certain temps, mais c'est vraiment utile dans le métro. Pas juste pour la couleur, mais au niveau du relief également, on les détecte très, très bien. Alors, oui, c'est une chose de l'inventer, mais c'est une autre chose pour les décideurs de décider de l'installer, et tant mieux quand les deux se font.
La semaine dernière, on apprenait dans le journal US News que des groupes de défense de droits de personnes handicapées aux États-Unis ont gagné leur cause alors qu'ils dénonçaient qu'on ait remplacé les escaliers de stations de métro à New York sans en profiter pour mettre un ascenseur. Alors, selon le juge, lorsque de tels travaux de rénovation sont faits dans une station et qu'il n'y a pas d'obstacle technique majeur empêchant de construire un ascenseur, il s'agit alors d'une infraction en vertu de l'Americans with Disability Act.
Mais c'est drôle parce que c'est tellement pas la même chose, puis tu vas pas nécessairement mettre l'ascenseur à l'endroit où les escaliers sont placés. Là, je veux dire, c'est complètement deux réalités différentes, mais on voit à quel point l'Americans with Disabilities Act a... disons, le bras long.
Oui, c'est une question de justification.
Ouais,
c'est
ouais,
que
ouais, ouais.
La compagnie, le MTA, Metropolitan Transit Authority, eux, ils invoquaient les coûts.
Mm-hmm.
Mais le juge a dit non,
ça prend
des défis techniques.
C'est ça, une meilleure raison que ça.
Voilà.
OK. Ça, c'est à New York?
Oui.
OK. Il nous reste encore une minute, nous dit-il.
Ben, les Cubs de Chicago ont une nouvelle chaîne YouTube et ils avaient mis des sous-titres automatiques. Il y a un usager sourd qui les a critiqués sur Twitter et ils ont décidé d'aller plus loin, d'investir pour avoir une meilleure, de meilleurs sous-titres qui soient plus précis, qui fassent moins d'erreurs, par exemple dans les noms de joueurs. Mmh. Et cette décision-là a été célébrée par les différentes associations de défense des droits des personnes sourdes aux États-Unis.
Tant mieux. La saison du baseball majeur, d'ailleurs, qui démarre cette semaine, c'est un peu nono. Deux clubs qui s'en vont au Japon, donc Oakland et Seattle, qui commence le 20, et ensuite une pause et tout le monde reprenne le 28. Alors, si tu veux briser un momentum, voilà comment faire. Merci, Christiane.
T'en prie.
Vous avez parlé à la grand-maman, vous?
Oui.
Bon, ben, on va y parler, nous autres filles. Lucie Thibault, en Ontario. Après la pause.
Vous écoutez Accès libre.
Girl, faut se rendre à l'évidence. When I say hey, 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 say do up, do up, do up, do up. C'est plus si c'est du vrai la peigne. Tellement fouetté là, il dépasse comme du caramel. J'étais avec elle, le futur est clair et net. Tant qu'à me donner, faut que ça vaille la peine. À rêver, on part à rien. Le monde aurait juste besoin de respirer un peu par le nez. J'vais rêver à plus qu'un petit tout inclus par année. Puis s'ils veulent jouer au souffrir, demandez-moi pour les parrainer. J'étais avec ma babe.
Rubis sur Canal M, la radio de Visez-vous avec Doo-Wop. Si vous regardez un petit peu l'actualité entourant la limitation fonctionnelle, particulièrement pan-canadienne, vous voyez que ça se... Donc, ça se déroule pas nécessairement comme on le souhaitait du côté de l'Ontario et des familles d'enfants qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme. Et il y a déjà eu des manifestations, il y en aura d'autres. D'ailleurs, Lucie Thibault est l'organisatrice de l'une d'elles, soit le 30 mars prochain du côté d'Oxbury. Bonjour, Lucie.
Bonjour, ça va bien?
Ça va très bien, merci. Et vous?
Oui, ça va bien.
Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'organiser une manifestation à Oxbury?
Premièrement, je suis grand-maman d'un enfant avec le spectre de l'autisme qui a 11 ans. Puis là, on n'est pas d'accord avec les réformes de Monsieur Doug Ford. Hein. Il veut nous, qu'on nos enfants soient retirés d'une liste d'attente au public pour pouvoir les mettre au privé. Mais ce qui arrive, c'est qu'une thérapie de 15 heures par jour par semaine, je veux dire pour un enfant tous les jours 15 heures, au bout du mois, ben ça donne 40, au bout de l'année, ça donne 42 000 $.
Mais lui, ce qu'il dit, c'est qu'en les mettant au privé, ils vont avoir des soins plus rapidement.
Non, moi je ne trouve pas, parce qu'il y a une liste d'attente de 1 an et demi avec M. Ford. Et M. Ford, lui, il dit qu'en 8 semaines, il peut ramasser tous les spécialistes, les thérapeutes dont on a besoin pour nos enfants autistes. Mais on a un enfant qui est sur une liste avec Thierry depuis 2 ans. Puis eux n'ont pas les spécialistes, je me demande comment M. Ford va pouvoir les trouver, ces gens-là.
Il y a également une... disons, un plafond financier, là, à savoir, du moins si je comprends bien, on souhaite investir, je crois que c'est quelque chose comme 140 000 $ d'un enfant âgé entre 2 ans et 18 ans. Donc, chaque fois que l'enfant profiterait de soins publics, c'est comme si la facture augmentait et on arrêtait de donner des soins à 140 000, c'est ça?
C'est ce qui arrive, c'est qu'à 140 000 de 2 ans, aller à 18 ans, vu comme je vous disais tantôt, mon petit-fils a 11 ans, donc lui a le droit à 55 000. Si on calcule au bout d'un an, une thérapie, c'est déjà 42 000. Il ne se rendra jamais à 18 ans avec 55 000, c'est sûr et évident. Fait que c'est un cri du cœur qu'on fait. Nous, ici à Hawkesbury, j'ai fait ça devant les bureaux de notre députée Amanda Simard. Beaucoup de gens me demandent des questions. Pourquoi devant le bureau d'Amanda Simard? C'est que Mme Simard nous a supportés durant la crise des Franco-Ontariens en date du 1er décembre. Ouais. Et elle est de nos côtés aussi, justement, pour les enfants autistes. Elle va être présente. J'ai eu la chance d'avoir... on a parlé par email et tout ça. Donc, Mme Simard va être présente à notre manifestation aussi.
En même temps, mis à part la défense de la langue française, Mme Simard était de la formation qui avait ça au programme. Je veux dire, elle était au courant de cette partie du programme-là. Et jusqu'à... pas si lointain, elle faisait partie de cette formation-là.
Oui, exactement.
Ça fait opportunisme un peu, non?
Oui, un peu, oui. Mais là, je veux dire aussi, comme M. Ford, il coupe beaucoup ici, comme là, les maternelles 4 ans, il n'y en a plus pour septembre. Ensuite, on veut prendre les élèves, les mettre dans d'autres classes pour remonter le niveau d'élèves par classe, pour pouvoir... faire des coupures là pour pouvoir avoir plus dans le budget, mais je veux dire, c'est quand même nos enfants qui sont touchés par ces coupures-là. Et les professeurs qui vont prendre leur retraite, ben le gouvernement Ford ne veut pas qu'il y en ait d'autres d'engagés. À quelque part, il faut qu'il y ait des professeurs engagés aussi.
Bien sûr.
Si on veut que nos enfants continuent à étudier. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se brassent avec M. Ford en bout de ligne. Là. Nous, on l'appelle mini-Trump, finalement.
Ah oui, hein?
Exactement.
Pour le moment, il n'y en a pas de limite. Là, on parle de 140 000, mais il n'y a aucune limite financière. La personne qui a besoin de soins obtient les soins.
Exactement.
Et c'est ce que vous souhaitez conserver.
Oui, c'est ce qui arrive. Moi et ma fille, on calculait un budget. Nous, ça donnait 640 par mois. Mais c'est pour les familles aussi qui sont dans le besoin, qui ont moins les moyens de pouvoir payer une thérapie. Mm-hmm. Mais on se dit aussi, les gens qui sont à faible revenu, qui vont avoir un montant de 640 par mois, est-ce qu'ils vont le mettre en thérapie ou qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Mais tandis qu'au public, nous, on sait que nos enfants... Oui, il y a une liste d'attente, c'est sûr, mais on sait que nos enfants vont avoir ce qu'ils ont besoin comme pour pouvoir continuer leur futur aussi. Là.
Bon, vous préparez quelque chose le 30 mars, mais vous n'êtes pas la seule. Je crois qu'il y a également une manifestation cette semaine prévue à Queen's Park.
Oui, puis à tous les vendredis de mars, présentement, on se réunit devant les bureaux de Mme Lisa McLeod, qui est la ministre à l'enfance, justement, à Ottawa, à tous les vendredis du mois de mars. On met un peu de pression là, pour pouvoir faire changer l'idée à M. Ford, mais on espère que ça va fonctionner. Mais en bout de ligne, c'est lui qui a le gros mot. Hein. C'est ça qui est triste.
Le budget est prévu pour quand en Ontario?
Il est prévu pour l'automne.
OK, OK. Maintenant, Lucie Thibault, lorsqu'on regarde, disons, bon, nous, évidemment, ça nous intéresse, le sujet du handicap ou de la différence, on fait nos... Je veux dire, c'est une émission consacrée à cela, mais les médias ontariens, est-ce qu'ils s'y intéressent?
Oui, beaucoup. J'ai parlé beaucoup aussi dans les journaux, c'est passé. Les médias, on attend aussi la manifestation qui va arriver le 30. Pour voir qu'est-ce que ça... Parce qu'on a beaucoup de questions sans réponse. Mm-hmm. On se demande, est-ce que nos enfants vont être sortis de la liste publique sans qu'on ait un mot à dire? Est-ce qu'on va recevoir une lettre? Est-ce qu'on va... On ne sait rien du tout de ce côté-là. On reste sans réponse.
Est-ce qu'on sent, par contre, parce qu'il y a peut-être des avantages pour ceux et celles qui travaillent dans le monde de l'autisme au secteur privé, pour eux, c'est bénéfique ce qui pourrait être, disons, proposé. Et deuxièmement, est-ce qu'il serait acceptable que, oui, le gouvernement subventionne le privé partiellement, et enlève le 140 000, enlève la limite, mais au moins se serve partiellement du privé. Est-ce que ça, ce serait acceptable?
Oui, ça serait acceptable si les sous sont là, mais c'est ça comme 140 000 au bout de la ligne. S'il n'y en a plus de 140 000, le parent est épuisé. Ouais. Moi, j'ai connu des parents qui ont perdu leur maison, qui ont perdu leur véhicule pour pouvoir mettre l'argent dans les thérapies. Ça fait aucun sens. Ici, même dans les environs de Hawkesbury, il n'y a pas de maison de répit. Hein. Les parents n'ont pas ça ici. Puis ce qui arrive aussi, les garderies. J'ai eu l'expérience d'une petite maman, moi, qui avait mis son enfant autiste dans une garderie. La maman suivait un cours pour pouvoir travailler avec les préposés et les personnes âgées. On l'appelle et on lui dit, tu as 2 jours pour trouver une autre garderie. Nous autres, on ne peut pas le garder parce que l'enfant est autiste. Même les garderies devraient être formées. Monsieur Paul devrait donner son budget pour que les garderies soient formées, pour que ces parents-là puissent quand même avoir une vie pour aller travailler puis savoir que leurs enfants sont en sécurité dans une garderie, pas se faire appeler et se faire dire, viens chercher ton enfant parce que nous, on n'est pas capable.
Ouais.
C'est ça qui est triste. Comme il y a beaucoup de parents qui veulent travailler aussi, mais qui sont pris là. C'est comme un attrape, hein, finalement. C'est un cercle vicieux, en bout de ligne. On est pris là-dedans. Là.
Rares sont ceux et celles qui ont organisé des manifestations comme vous le faites. Qu'est-ce que ça implique?
Moi, je suis tout seul pour faire la manifestation.
Okay.
Je peux vous dire que c'est beaucoup de travail.
Ouais.
J'ai fait beaucoup d'appels. J'ai écrit à nos députés. J'ai parlé avec même notre mairesse. J'ai appelé les médias. Je veux dire. Puis le 2, c'est la Journée internationale de l'autisme.
C'est vrai. C'est vrai.
Je tenais à le mentionner. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de faire ma manifestation qui est un samedi, pour qu'on puisse avoir le plus d'enfants et parents, qu'on voit que c'est un cri du cœur, même si nos enfants, la plupart, sont non-verbales, ils ont quand même une pensée. C'est des enfants qui sont très intelligents, mais il faut leur donner les outils pour être capable de travailler plus.
Jusqu'à maintenant, est-ce que vous sentez un appui? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont dit « oui, on va sortir nous aussi avec toi »?
Oui, beaucoup. Beaucoup. J'ai des gens sur Franco-Ontarien, beaucoup aussi. Le site Je suis Franco-Ontarien qui supporte ma cause. J'ai beaucoup de gens qui sont supposés être présents, mais combien de nombres, on ne sait pas encore.
Avez-vous un objectif ou peu importe si on est, disons, dans les nouvelles, c'est déjà ça?
Oui. Moi, je me dis, l'objectif, c'est de faire passer le message. C'est ça qui est important pour nous, c'est de faire passer le message. Puis j'ai même, aujourd'hui, je me prépare à envoyer aussi à Queen's Park un message à monsieur Ford, là, disant que j'ai l'intention de manifester aussi contre sa réforme.
Mm-hmm.
Puis qu'on est plusieurs parents là qui sont... Et je vais avoir aussi madame Tyler aussi, qui va être mon porte-parole, que c'est une dame qui a fait beaucoup, beaucoup à Toronto pour les enfants autistes. C'est elle qui va être notre porte-parole en date du 30 mars.
Ça prend de la détermination, ça prend du oomph, ça prend du guts, Lucie. Vraiment, bravo. C'est vrai qu'il ne faille pas accepter l'inacceptable.
Non, mais tu sais, on se dit, ces enfants-là ont tellement eu de misère à avoir leur place en société, se faire reconnaître, qu'aujourd'hui, on veut les enlever ce qu'ils ont. Je suis pas trop d'accord, non.
Ouais, non, effectivement. Puis il y a peut-être, il y a lieu de couper ailleurs, là. Je veux dire, si on veut faire des gains... C'est pas sur...
Pas sur la santé.
Non, c'est ça.
Oui, exactement.
Sur ceux qui sont plus éprouvés, là. Ça, c'est évident. Ben, en tout cas, bravo pour vous. J'imagine Patrick va marcher avec vous?
Oui, ça, c'est sûr qu'il va marcher avec nous. Il va être avec à nos côtés, ça, c'est garanti.
Ben, je vous souhaite une température agréable. Ça se passe samedi, le 30 mars, du côté de Hawkesbury. Ça démarre ou ça se termine devant le bureau de la députée Simard?
Ça reste devant le bureau du député.
Okay.
On va tout faire ça là de 11h à 3h, oui.
Lâchez pas, on va suivre ça.
Je vous remercie énormément. Je vous souhaite une très bonne journée.
Merci beaucoup, Lucie Thibault, donc, qui est l'instigatrice de cette manifestation qui aura lieu le 30 mars. C'est pas la seule. Et c'est ça qui démontre justement là, un certain ras-le-bol de la part d'une partie de la population. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de coupures et il y a bien des gens qui sont un petit peu... disons, l'épine dorsale, mais comme je le disais, pourquoi décider de couper aux plus vulnérables? Ça dérange tout le temps. On écoute Glenn Campbell et ensuite, tiens, une autre situation qui est pas mal embêtante, celle d'un gouvernement qui ne tient pas ses promesses. On parle du gouvernement de la coalition.
« for the county, and I drive the main road, searching in the sun for another overload. I hear you singing in the wire, I can hear you through the whine, and the Wichita lineman is still on the line. I know I need a small vacation, but it don't look like rain. And if it snows, that stretch down south won't ever stand the strain. And I need you more than want you, and I want you for all time. And the Wichita lineman is still on the
Wichita Lineman avec Glenn Campbell sur Canal M, la radio de Vusevoix. Je vous disais qu'on parlerait de maintien à domicile. Un dossier que suit Simon-Philippe Caron, qui lui est agent de défense des droits du côté d'Execo. C'est un dossier d'ailleurs qui dérange Execo depuis déjà un certain temps. Salut Simon-Philippe, merci d'être là.
Bonjour, merci à vous de m'inviter.
Peut-être nous mettre en contexte, là, parce que ce que... Bon, j'ai ouï dire que le gouvernement de la Coalition Avenir Québec avait fait des... avait pris des engagements avant d'être élu, et tiens, jusqu'à maintenant, pas de traces de ces engagements-là. Peut-être nous expliquer d'abord où est le manque.
Le manque d'abord, c'est que ça fait des années, hein, on sait qu'il y a un sous-financement chronique en fait du soutien à domicile. La demande, évidemment, augmente à chaque année. On sait, on est en plein vieillissement de la population. Ça fait 25 ans qu'on en parle, c'est pas un grand mystère. Mm-hmm. On est censé être préparé. Et donc, à cause de ce sous-financement-là, ben, évidemment, les services en souffrent. Et là, on se retrouve en 2019 avec un surplus de 4 milliards de dollars dans les coffres et un soutien à domicile toujours en manque d'argent. D'ailleurs, la ministre avait demandé au CIUS du Québec le manque à gagner pour se rendre jusqu'au budget, donc ce budget-ci. Mm-hmm. Donc, de décembre au 31 mars qui s'en vient, il manquait 67 millions dans les coffres pour que les CIUS puissent répondre à la demande. Donc, ça donne un peu un ordre de grandeur. Oui, effectivement, la CAQ, avant les élections, nous avait promis des nouveaux investissements sur le domicile.
Ouais.
À hauteur, pour ce budget-ci, là, on s'attend à un 200 millions. Là, je viens de vous parler d'un 67 millions, hein, juste de décembre au 31 mars. Donc, faites les mathématiques comme vous voulez.
Et ça, c'est un 67 millions qui était déjà dans les budgets. Donc, il a fallu qu'on l'enlève quelque part pour le déplacer vers le maintien à domicile.
En fait, il n'y a pas eu d'injection
de nouvel argent. Là.
Non, c'est ça. Ouais. Il y a un manque à gagner, 67 millions, et ce manque à gagner-là est toujours présent.
Mm-hmm.
Les CIUSSS, en fait, essaient de donner les services du mieux qu'ils peuvent sans avoir les ressources nécessaires. Ouais. On est en plein là-dedans. Donc, c'est un problème énorme, surtout que le soutien à domicile, on le sait, c'est un secteur névralgique de la santé. Hein? Quand le soutien à domicile ne va pas bien, c'est les urgences qui ne vont pas bien, c'est le restant des institutions médicales, publiques au Québec qui vont pas bien parce que le soutien à domicile, c'est la première ligne.
Mm-hmm.
Donc, à ce niveau-là, on se demande un peu pourquoi les gouvernements, alors qu'ils cherchent la solution économique en santé, n'investissent pas davantage en soutien à domicile. L'autre question, mais je dirais qu'au-delà des chiffres, là, évidemment, si on se fie à ce qui a été dit par M. Legault dans les dernières semaines, on s'attend à ce que la promesse du 200 millions se concrétise.
Ouais, okay.
Mais est-ce assez? Et est-ce que c'est donc est-ce suffisant? Est-ce que c'est vraiment ça que ça nous prend? D'abord, est-ce suffisant? Je vous ai parlé du 67 millions pour à peine 3-4 mois. Est-ce que 200 millions sur un an, ça va être suffisant? J'en doute beaucoup. Deuxièmement,
est-ce que ça pourrait être 200 millions fois 4? Ouais, c'est ça, c'est un budget, mais ce qu'on souhaite, c'est que ça soit fois 4. Je veux dire, on ne veut pas juste un coup d'argent pour calmer les esprits, mais qu'on ne comprenne pas que c'est d'une somme dont on a besoin avec le vieillissement, avec... on est rendu là.
Oui, bien exactement. En fait, le soutien à domicile, nous, ce qu'on demande au gouvernement, c'est qu'on en fasse la priorité en santé.
Oui.
C'est la solution pour à peu près pour un grand nombre de problématiques qui sont vécues actuellement dans le système. Mais surtout... Nous, quand on parle de priorité, il y a l'argent, oui, mais il y a eu des gros changements aussi au niveau de l'organisation du soutien à domicile depuis plusieurs années.
La réforme Barrette, entre autres.
Ben, la réforme Barrette, évidemment, qui a complètement désorganisé le système. Mais en plus, évidemment, l'introduction de la méthode de ligne, donc des nouvelles méthodes de gestion, où on calcule à la minute là, chaque geste qui est posé. On parle aussi, en fait, d'une face à la pression. Là, comme je vous ai dit, les CIUSSS donc, doivent donner des services alors qu'ils n'ont pas les ressources pour les donner. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que les critères, ce qu'on considère comme étant un besoin de soutien à domicile, c'est en train de se transformer, de changer. On ferme un petit peu les portes, on ne reconnaît plus certains besoins. Il y a certains services qui ne sont plus donnés, comme par exemple l'aide aux emplettes, depuis au moins un bon 2 ans. Donc, on enlève des services, on ne reconnaît plus les besoins. Du même souffle, il y a l'introduction du privé là, qui est de plus en plus importante dans le soutien à domicile et qui est en train de transformer le visage du soutien à domicile puisque les préposés...
Simon, je vous arrête. Simon-Philippe, je vous arrête parce que, bon, je vous entends. Puis à un moment donné, c'est parce que c'est vrai là, qu'on commence à manquer d'argent socialement et il faut trouver des nouvelles façons de vivre et de dépenser. Exemple, moi, j'ai des amis qui m'aident pour mes épiceries. C'est pas le gouvernement qui paye pour m'aider à faire mes emplettes. Et je me dis, pourquoi quelqu'un qui est en fauteuil roulant devrait avoir quelqu'un de rémunéré pour faire ses emplettes?
On s'entend qu'au niveau du soutien à domicile, il y a toujours une évaluation par un professionnel, généralement un ergothérapeute ou un travailleur social. Donc, quand je parle d'aide aux emplettes, évidemment, si la personne n'en a pas besoin, par exemple, vous avez un ami qui peut vous offrir de l'aide, vous n'aurez pas ce service-là. Il ne sera pas nécessaire.
Mais en même temps,
à partir du moment
si
où
on m'offre le service,
isolée,
je ne dérangerai pas d'amis. Tu sais, je veux dire, ça commence par... Si je suis obligé, je vais déranger un ami, puis...
Ben, moi, je pense à toutes les personnes qui sont en situation de handicap, qui sont isolées chez elles, qui malheureusement n'ont pas l'ami que vous avez, n'ont peut-être pas la famille à proximité, et qui, eux, se font retirer le service... Ben, eux se retrouvent dans une situation dramatique. Et là, on parle des emplettes, mais on sait aussi qu'il y a des coupures au niveau... Il y a eu des coupures au niveau de l'aide au ménage, de l'aide au repas. Il y a la diminution de l'aide à toutes sortes de soins d'hygiène aussi.
Mmh. Le chèque emploi...
Oui.
On parlait à la coop assiste il n'y a pas si longtemps. Eux proposent quelque chose. Est-ce que c'est quoi une position là-dessus? Bon, à savoir payer des agences versus le CLSC, puis qui gère l'argent?
Bien, justement, la position d'Execo, c'est qu'actuellement, il y a eu des changements extrêmement important qui dénature, en fait, le consensus autour de ce qu'est le maintien à domicile au Québec. Et je pense qu'on en est rendu, non pas arrivé, quoi passer, c'est en passant, je vous avoue que ex aequo, en tant que tel, on n'a pas de position particulière sur leur démarche. Puis clairement, plus qu'il y aura de démarches, plus qu'il y aura de propositions, mieux c'est.
Ouais.
Maintenant, je pense que au niveau où on est rendu, il est temps d'avoir un réel débat public sur la question du soutien à domicile. Il est temps qu'on fasse une nouvelle réflexion, parce qu'effectivement, on est devant des faits accomplis et les groupes et les personnes qui ont besoin du soutien à domicile n'ont jamais été consultés sur les changements qui ont été apportés au programme dans les dernières années. Je pense qu'il est temps que ça change. Je pense qu'il est temps qu'il y ait un dialogue qui se mette en place entre la ministre et les organismes et les gens qui sont dans le besoin de soutien à domicile, parce que des questions comme la privatisation des soins, des questions comme qu'est-ce qu'un besoin en soutien à domicile, je pense que c'est des grandes questions de société dans une société québécoise qui est en vieillissement. Donc, le soutien à domicile va devenir de plus en plus important. Je pense qu'il est temps de se poser ces questions.
On a appris ici que ça faisait au moins 20 ans que le programme d'adaptation à domicile avait peu d'augmentation. On est encore à 16 000 si besoin il y a. C'est quand la dernière augmentation au niveau du maintien à domicile? Le savez-vous? C'est pas grave si vous le savez pas, là.
En fait, j'ai mal compris votre question.
C'est quand la dernière fois qu'on a injecté des surplus dans le maintien à domicile?
Dans le maintien
à domicile? Là, on parle de 200 millions.
Ah, il y en a eu à toutes les années.
Mais
tu sais,
augmenter l'enveloppe, là.
Ben, par exemple, l'année passée, c'était 69 millions. L'année d'avant, 67.
OK, donc un petit 2 millions de plus. Et boy. OK, c'est pas beaucoup. Budget, c'est quand?
Le budget s'en vient bientôt. Écoutez, je travaille sur plusieurs dossiers. J'ai même pas regardé la date.
On checkera ça. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Christiane, à vous à la maison. À la semaine prochaine.